Bienvenue dans Une heure en série, saison 1, l'épisode 10, l'émission qui chaque semaine décrypte et analyse l'actualité des séries télé. Cette semaine, nous parlerons espionnage 2.0, gadgets sophistiqués et missions impossibles dans Blacklist Redemption sur TF1, attaque extraterrestre, fin de l'humanité et résistance désespérée dans la guerre des mondes sur Canal+, et enfin monde vicié de la finance, amitié toxique et soirée hyper alcoolisée avec Click sur Sundance TV.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Ah, ces soirées hyper alcoolisées où je les ai trouvées, les chroniqueurs et les chroniqueuses de l'émission, évidemment, dans un état que je n'ose évidemment vous avouer, mais ça n'était pas beau à voir, je tiens à vous le dire. Ariane Allard, bonjour.
Bonjour, Xavier.
Vous écrivez toujours dans Cosette et dans Positif, j'ai failli mettre les deux titres en même temps, sur les séries télé
et
sur le cinéma. Christine Haas, bienvenue, ravie une fois de plus de vous retrouver, et Benoît Lagane, que l'on retrouve tous les vendredis à 5h53 dans le 5-7 de Mathilde Munoz.
Salut,
et également
Xavier.
Dans Télé Matin. Il y a du courrier, on en a gardé un plutôt laudatif, mais pour l'instant ils le sont tous, alors n'hésitez pas à nous dire que vous ne nous aimez pas. Bonjour, nous dit Violaine Guérin. Après 2 mois d'écoute, je suis un peu déçu de la programmation des séries critiquées, mais au vu du top 50 des meilleures séries publiées récemment par Télérama, je pense que mes goûts ne rejoignent pas ceux de la majorité du public, donc pas moyen de me plaindre, s'il y a toujours moyen de se plaindre, chère Violaine. Dommage, la qualité des propos des intervenants étant de rendez-vous, j'attendrai quand même une série à mon goût, je ne désespère pas. Violaine, je viens de le rappeler, c'est une émission qui traite de l'actualité, donc nous sommes tributaires en tout cas de ce qui passe à la télévision lorsque nous prenons la parole, donc parfois effectivement il y a des bonnes pioches, parfois il y a des moins bonnes pioches, mais l'idée c'est peut-être de vous indiquer justement ce qu'il y a de recommandable sur le petit écran, et nous allons commencer tout de suite notre premier débat avec Blacklist Redemption sur TF1 en dernière partie de soirée le mardi à 00h25, c'est peu dire que ça sent le sapin. C'est un spin-off de Blacklist centré autour du personnage de Tom Keen, Ryan Eggold, que vous pouvez voir actuellement dans New Amsterdam, qui sera bientôt diffusé sur TF1. Tom Keen rejoint une organisation de mercenaires œuvrant dans les zones d'ombre de la législation internationale et américaine et menant des investigations où ne peuvent intervenir ni le FBI, ni la CIA.
Suivez mes instructions.
Qu'est-ce que... Mais qui ? Pourquoi ?
Vous, peut-être qu'on nous écoute.
Écoutez-moi, je sais pas qui vous êtes.
Allez au parc de Washington Square. Assurez-vous qu'on ne vous suit pas.
Où vous avez eu cette photo ?
Attendez près de la fontaine.
Allô ? Vous avez intérêt à me dire tout de suite qui vous êtes.
Je suis ton père. Tom, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, tout cet entraînement, tes compétences, ce n'était qu'une préparation à affronter ce qui se passe aujourd'hui.
Tom Keen, on peut dire que je vous ai cherché partout.
Mon amour, je pense qu'il va falloir que je te rappelle.
Alors, le souci pour le pauvre Tom Keen, c'est que cette organisation top secrète est dirigée par la dernière épouse en date de son père. Prenez des notes, c'est un peu compliqué. Et que cette femme fatale, interprétée par Famke Janssen, qu'on a vue depuis dans Murder, et l'excellent The Capture que je vous avais recommandé en pépite inédite, pourrait bien être à l'origine de la disparition de papa. Papa qui n'est peut-être pas mort, comme tout le monde le croit. Bon, en bref, vous avez compris, c'est mission impossible, et pour faire moderne, on a mis un petit peu de complexe d'Oedipe là-dessus. Pour autant, est-ce que c'est réussi ? Bah, le problème, c'est que ça a été diffusé en 2017 aux USA, une seule saison de 8 épisodes, bon ça sentait déjà pas bon, que la première chaîne TF1 avait acheté immédiatement, puis voyant un tout petit peu quand même que ça prenait pas ni aux USA, ni partout, ni nulle part, l'a foutu sur MyTF1, c'est-à-dire
La plateforme.
La plateforme. Merci beaucoup Benoît d'être là et de suivre un tout petit peu. Donc, ça fait 2 ans qu'elle le diffuse là-dessus. Cette fois-ci, elle le dégaine. Mardi, donc je vous le rappelle, 00h25, ça sent pas très très bon, mais néanmoins, dans le registre du petit plaisir coupable, moi, je pourrais plaider en faveur de la série. Vous avez mon mauvais goût légendaire, mais vous allez me dire justement, et c'est Benoît.
Oui, parce qu'alors, il faut recontextualiser. Effectivement, la série n'a duré que 8 épisodes. Pour quelle raison ça passe à un moment donné aux États-Unis, on teste une série. Au printemps, on la teste, on fait 8 épisodes. Et si ça marche, elle aura droit à une saison l'année d'après, comme toutes les grandes. Si ça marche pas, ben ça s'arrête. Ça n'a pas marché, donc ça s'est arrêté. Ça n'a pas marché, sans doute à raison, parce que c'est quand même pas très réussi, ce Blacklist Redemption. il faut la reconnecter à la série Blacklist, parce que c'est un spin-off, donc c'est une série dérivée. Du coup, pourquoi TF1 le diffuse? Moi, je pense que c'est intéressant. Ceux qui suivent Blacklist sur TF1, donc l'histoire avec James Spader, vous savez, c'est ce grand méchant qui aide à, grâce à sa liste de bandits, enfin bref, c'est une série qui... Voilà, de criminels. C'est une série qui fonctionne depuis très longtemps, à succès. Il y a un des personnages qui s'en va de Blacklist et qui est développé dans Blacklist Redemption. C'est ce fameux Tom Keen. Donc jusque là, on est content si on a suivi Blacklist, la première série. Sauf que si on s'est déjà arrêté dans la série Blacklist, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et au vu du résumé, Xavier, que vous venez de faire, on n'y comprend rien. Donc on essaie de se raccrocher à la fameuse Mission Impossible, qui moi me fait penser aussi, c'est les mercenaires, à Agence Tourisque, mais à Agence Tourisque d'aujourd'hui, avec de la technologie et tout ça. Sauf que ça devrait être drôle, et ça ne l'est pas. Donc ce n'est pas drôle, la mission on s'en fiche, et l'histoire bricolée, on n'y comprend rien, et ça nous...
Maman, et encore voilà. J'ai fait la version simple. Voilà. Hein,
Alors, pour le plaisir du sériphile, on sera content de savoir que Terry O'Quinn, qui joue dans Lost et qui était mort dans un avion, ou disparu dans un avion, est vivant, alors que c'est le père qui est soi-disant mort, parce que soi-disant, il est mort dans un avion. Ça, c'est dit au début de la série. Donc, le sériphile, au départ, est content, se dit « Ouah, il va y avoir des petits clins d'œil comme ça », et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, au final, 8 épisodes pour pas grand-chose. Mais bon, allez, pour ceux qui aiment Blacklist, pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, juste ça.
Tout que la piste d'Ipienne, elle est une fois sur deux. Hein, elle n'est pas présente dans tous les épisodes.
Non, mais c'est vrai que c'est pathétique, hein, cette série. C'est absolument insensé. On est plus souvent proche du soap que de n'importe quoi, avec une narration qui s'appuie sur une famille donc évidemment dysfonctionnelle, un papa persuadé que maman a organisé l'accident en avion, maman dont l'identité n'est pas claire, fiston dont l'enfance est mystérieuse et qui connaît enfin l'identité biologique de ses parents. Ils ressuscitent tous à tour de rôle, ils s'espionnent, ils s'infiltrent, ils connaissent pour se connaître le secret de leur passé. Je baille en le racontant, mais enfin bon, les acteurs...
Nous aussi,
hein, c'est-à-dire c'est bavard, il y a un blabla technologique pour nous faire comprendre que ce ne sont pas des petits pieds, il y a des missions qui n'ont absolument rien d'original, on les a toutes vues, hein, dans le désordre, sans suspense, sans enjeu, sans challenge particulier. On a juste le catalogue habituel, hein, combat, explosion, course-poursuite, kidnapping, etc. Avec plein de sang, parce que vraiment, il y a du charcutage. Alors, bon, là aussi, on s'en fiche. Et puis, il y a, techniquement, c'est pathétique parce qu'il y a parfois l'écran se partage en split screen pour des scènes qui superposent en action parallèle le boulot, la vie privée, etc. Alors, merci De Palma qui faisait déjà ça dans les années 70, c'est d'un démodé, c'est bonbon.
Et Manus, puis,
c'est vrai Manus que aussi, le plus compliqué, c'est que Red, le personnage de Red dans Blacklist, pour ceux qui sont fanatiques et qui aiment cette série-là, c'est joué par James Spader, c'est quand même un personnage assez unique. Il est donc assez difficile d'en créer un autre aussi fascinant. Et le problème, c'est que Tom Keen a la personnalité d'une endive. Et alors, on attend...
Ah, il y a des endives qui ont plus de personnalité que
voilà.
Comme...
Alors, on attend, Gold, hein. On espère... Et pour nous maintenir éveillés, en plus des dangers de ces missions, qui sont des missions vraiment qui n'ont pas l'air hyper compliquées, il doit collaborer avec un ancien ennemi mortel qui fait maintenant partie du groupe. Il est sans arrêt en train de surveiller derrière lui. Et alors, on nous rajoute des dialogues qui sont à lecture multiple. Elle a dit ça, mais est-ce qu'elle le pense? Enfin, c'est, je veux dire, au secours.
Alors, promettez-moi une chose, Christine. N'aimez plus jamais une série. Vous êtes tellement formidable quand vous les détestez que j'aimerais vous confier cette mission d'ici la fin de saison. Vraiment. Bon, Ariane, Alain, est-ce que vous allez sauver quelque chose de ce Blacklist?
Il n'y a plus grand chose à dire, malheureusement.
Ah bah, elle a un tout petit peu cramé le terrain, là. Oui, d'accord.
Mais... Alors, donc, moi, je dirais que c'est plutôt, ça fait un peu sortie d'usine, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le blockbuster qui est hyper formaté, hyper calibré. Christine évoquait, effectivement, il y a forcément des scènes de fusillade, des enlèvements, des grosses voitures noires. Des bureaux géométriques impersonnels dans des tours et des buildings impersonnels. Voilà.
Personne ne parle des talons de 15 cm.
Voilà,
de
j'allais
quand même,
un petit peu parler de l'héroïne également aussi, bon, qui a un visage tellement figé que. On a un peu du mal quand même à prendre cause, effet et cause pour elle. C'est la grande méchante, hein, faut le dire. Toujours ce personnage de femme comme ça, mûrissante et un peu machiavélique,
manipulatrice.
La she-devil qu'on retrouve à peu près dans toutes ce genre de séries très formatées encore une fois. Mais malgré tout, et pourtant il y a aussi des tas de personnages, le personnage du geek, là, l'espèce d'obèse voyeur forcément.
Oui, forcément.
Enfin, c'est même un amoncellement de clichés, de stéréotypes. Et malgré tout, moi je dois dire, tu parlais tout à l'heure de plaisir coupable. Moi je dois dire quand même qu'il y a du rythme et que j'avais l'impression moi de rentrer dans une série série vintage, le split screen qui ne sert à rien, parce que à l'époque de Palma et des autres, ça avait du sens. Aujourd'hui, ça n'a aucun, si ce n'est pour donner un sentiment de précipitation, d'activité manifeste, alors qu'il ne se passe pas grand chose. Et ben, moi, je ne sais pas, ça a dû éveiller une espèce de nostalgie en moi. Et j'ai quand même pris du plaisir à regarder. Je pense que j'ai déjà totalement oublié les 3 épisodes que j'ai regardés, parce que j'ai pas pu aller au-delà, je le reconnais. Mais pendant que je les ai regardés, je dois dire que c'était bien foutu. Ariane.
Bon ben voilà, on vient d'enterrer Blacklist Redemption. J'ai l'impression que Benoît a encore quelque chose à dire.
Mais juste
le
à dire
cadavre
que moi,
frétille encore.
Non, mais moi qui n'ai aucun plaisir coupable, je n'ai que du plaisir. J'ai eu du plaisir à regarder. Mmh. Sauf qu'à partir du moment où l'esprit part ailleurs, c'est ça le problème. Et ça aurait pu être une bonne série juste pour le plaisir, mais c'est juste quelque chose qui ne fait que passer.
Ouais, mais quand tu t'endors, en plus, ils ont une musique qui pulse l'action, comme ça, pour te maintenir éveillé.
Ce sera la phrase de l'émission. Nous savons que Benoît n'a que du plaisir. On va peut-être en prendre en écoutant une musique.
Why men great so they gotta be great? Ooh. I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's the human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me.
You could've had a bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back. With your bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singin' single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. In a minute, yeah, yeah. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes, we just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes, we just keep it pushing like aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face.
Et nous venons d'écouter Truth Hurts, la vérité fait mal, bless, par Lizzo. Elle vient de Détroit, elle a 31 ans, c'est une rappeuse, on l'a entendu, très engagée dans la défense des droits LGBTQIA+. Il va falloir qu'ils arrêtent, parce que là, on va pas y arriver, ou en tout cas, on va vite manquer de souffle. Son clip est complètement dans cette mouvance-là. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment une présence, elle a une énergie indispensable. Lizzo, Truth Hurts, et c'est la playlist de France Inter, bien évidemment.
France Inter... Une heure en série.
Et ce petit jingle un peu flippant nous plonge directement dans l'ambiance de votre effet miroir, cher Benoît, cette semaine, puisque nous allons vous parler, en clin d'œil au prochain débat, La Guerre des Mondes, d'une série qui, dans les années 70-60, nous a tous fait trembler.
Oui, c'était en 1967, précisément aux États-Unis sur ABC, et ça commençait toujours comme ça. Ils étaient là. A hanté le poste cathodique américain. 2 ans plus tard, en 1969, il débarque chez nous sur l'ORTF. C'était...
Les Envahisseurs. Avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva.
Et le générique de poursuivre que le cauchemar avait déjà commencé dans une Amérique où les envahisseurs avaient pris forme humaine, seul signe distinctif, un petit doigt plutôt raide. Alors c'était produit par Queen Martin, à qui l'on devait entre autres Xavier le Fugitif, qui était un grand hit de l'époque, et la série reprenait un des principes, l'histoire d'un héros solitaire qui erre dans une Amérique profonde, dépeinte quand même avec un certain réalisme. Grande série parano dans les envahisseurs, David Vincent est le seul à savoir. Personne ne peut le croire et pourtant la menace gronde. Un thème qui sera ensuite d'ailleurs rejoué à de multiples reprises dans les séries du même genre et notamment dans les années 90 dans la série X-Files qui offrira d'ailleurs au comédien Roy Thynnes un rôle dans quelques épisodes. Alors David Vincent était architecte de formation et il traque donc ses envahisseurs extraterrestres à chaque épisode. Il gagne la bataille à chaque coup. Son combat semble pour autant perdu d'avance comme si la menace ne s'estompait jamais, un peu à l'image du contexte géopolitique de l'époque, celui de la bipolarisation du monde.
Alors bien joué, vous avez quand même réussi à glisser bipolarisation du monde dans la chronique, vous avez toute mon admiration. On a beaucoup dit d'ailleurs à l'époque, parfois de manière un peu caricaturale, que ces envahisseurs représentaient la menace communiste.
Oui, effectivement, on a beaucoup dit que le halo de lumière rouge dans laquelle disparaissaient les envahisseurs était un signe communiste. Alors d'autres ont dit que ces envahisseurs si humains et qui complotent dans le dos des citoyens pour mieux manipuler tel ou tel dirigeant dans le plus grand secret pouvaient être vus comme une critique de la CIA. Si on ajoute à cela que la plupart du temps la série se joue dans des déserts, dans des complexes militaro-industriels abandonnés où, nous laissons imaginer, les Américains auraient pu expérimenter de nombreux essais pas très clairs. On pourrait y voir même une critique de cette Amérique secrète qui expérimente l'impensable au nom de la défense de la démocratie. C'est en fait le contexte de l'époque, l'après-cataclysme de la bombe H et la peur nucléaire, la guerre froide, l'enlisement des troupes américaines au Vietnam. La série pessimiste joue sur les peurs de son temps, mais au fond, dans la série Les Envahisseurs, le plus intéressant à observer, ce n'est pas l'ennemi, qui est ni plus ni moins qu'une représentation basique du mal. Nous sommes dans une Amérique puritaine qui croit beaucoup en ce combat éternel du bien contre le mal. Non, le plus intéressant dans Les Envahisseurs, c'est d'observer l'Amérique qui est dépeinte tout au long des épisodes. Une Amérique qui tend à se déshumaniser. Et ça, David Vincent le sait. D'ailleurs, il ne croit plus personne.
Vicky, vous avez fait des millions de kilomètres pour parvenir ici. Vous avez forme humaine, mais vous venez d'un autre monde.
C'est sans importance. Enfin, pour moi.
Excusez-moi. Je dois partir.
Et David Vincent fuit l'humanité tout entière, représente en réalité une menace pour l'humanité. Et pour David Vincent, communiste, CIA, politique, militaire, tout le monde ment, mais qui sait peut-être même aussi les femmes, qui se révèlent être souvent un danger. Bien loin de la femme au foyer enfermée dans son concept tant apprécié par les publicitaires. Heureusement, David Vincent les a vus.
Il est en route pour la station de Los Mochis. Il va avertir un homme qui s'appelle Fellows.
On y voit ce qu'on veut dans Les Envahisseurs, Xavier.
Merci beaucoup, Benoît. En même temps, quand on voit Donald Trump, est-ce que la menace de l'envahisseur est totalement éradiquée? C'est une question qu'il est permis de se poser. C'était l'Effet Miroir, une chronique à réécouter en podcast sur la page de l'émission. Merci beaucoup, Benoît. Et c'était une merveilleuse introduction à notre deuxième débat, la guerre des mondes, depuis le 28 octobre sur Canal+, 8 épisodes, tous disponibles.
Oui, je suis Catherine Durand, je suis en poste à l'Institut de radioastronomie millimétrique. Nous avons quasiment la certitude d'avoir repéré une vie extraterrestre. Qu'est-ce qui se passe?
On a une multitude d'objets en approche.
Quel genre d'objet?
On ne sait pas, mais ils se déplacent à plus de 1000 km par seconde.
C'est impossible.
Le taux de radioactivité est normal. Pas de présence d'agents chimiques ou biologiques. On vient de détecter un champ électromagnétique très puissant. La densité du...
Et vous entendez pas?
Pardon?
Il y a ce son-là que j'ai entendu cette nuit. T'entends pas un son?
Non.
Attention!
Alors cette nouvelle version de La Guerre des Mondes a été créée par Howard Overman, BAFTA de la meilleure série dramatique pour Misfits. C'est vrai que Misfits est une grande série, une nouvelle interprétation très contemporaine du roman culte de H.G. Wells écrit en 1898. Donc on rappelle rapidement, mais la bande-annonce a bien recontextualisé tout ça, des astronomes détectent une transmission émanant d'une autre galaxie qui serait la preuve d'une vie extraterrestre intelligente. Vous avez qu'à nous demander, moi j'en ai trois en plateau, donc on savait plus longtemps quand même. Quelques jours plus tard, l'humanité est pratiquement totalement détruite et la série va suivre les destins d'une poignée de survivants confrontés à la perte de leurs proches et de tous leurs repères, particulièrement moraux. Casting de luxe, Gabrielle Byrne, Elizabeth McGovern, vous avez entendu un peu dans ma voix quand même mon admiration, Léa Drucker que j'adore tout autant, Adèle Benchérif et Guillaume Gouix. C'est un classique de la SF régulièrement adapté, on se souvient d'Orson Welles évidemment qui a terrorisé l'Amérique, mais également l'excellent film de Steven Spielberg. C'est pas le roman le plus adapté de H.G. Wells, c'est plutôt L'Homme Invisible qui tient le pompon. La BBC vient d'ailleurs de dégainer une adaptation, une mini-série de 3 épisodes, beaucoup plus fidèle dans le contexte à l'époque du roman de H.G. Wells, mais on en parlera dans quelques temps puisque TF1 en a fait l'acquisition. Là, nous parlons de La Guerre des Mondes, version contemporaine, réactualisée du roman de Wells. C'est sur Canal+, et c'est Ariane qui commence. Vous les avez vus, vous, les extraterrestres?
J'ai vu en tout cas une série qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a inquiétée et que j'ai trouvée d'une grande sensibilité, très curieusement. On s'attend pas à ça, bien sûr, parce qu'on a les images du film de Spielberg en tête. Bien sûr, c'est la dernière référence. Le film de Spielberg qui date de 2005, donc c'est
avec
pas
Tom si Cruise. Voilà,
et qui était un film que moi aussi je trouve très réussi, très spectaculaire,
qui était allé vers les tragédies du XXe siècle,
hanté
hein,
par
la Shoah, les trains,
et le
11 septembre, bien évidemment.
Voilà, je pense qu'ils ont pris l'exact contre-pied. Ils ont tout à fait raison, parce que d'abord, ça me paraît difficile de rivaliser. Et puis surtout, je veux dire, aujourd'hui, 15 ans après donc le film de Spielberg, les peurs ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on est vraiment dans un... C'est plus une logique de survie qui prévaut tout au long de cette série qu'une logique de paranoïa et de peur de l'autre et surtout de l'invasion de l'intérieur. Je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, les personnages qui peu à peu interviennent, qui sont mi-robots, mi-organiques, on ne sait pas très bien, c'est moins ça qui intéresse les scénaristes et le créateur de la série que la relation entre les personnages. Je pense que c'est une série qui est finalement assez intimiste, qui est aussi centré sur l'idée du lien. C'est moins la famille, encore une fois, que le lien et la solidarité qui se joue entre eux. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tous ces personnages, puisqu'on prend le temps de les accompagner, et l'écriture sérielle évidemment privilégie ça, c'est que ce sont tous des personnages assez dysfonctionnels. Et je trouve que petit à petit, on arrive à quelque chose de très touchant. Enfin, moi, j'ai été captivée par eux. Il y a une autre chose dont j'aimerais parler. On en parle peu, c'est de la lumière, c'est-à-dire de la photo. Je trouve que cette photo, elle est assez blanche, laiteuse, spectrale. Ça rajoute et ça renforce cette idée aussi d'ambiance un peu cotonneuse. Ces personnages sont pris entre deux trucs, ils savent pas ce qui leur arrive, ils sont saisis, ils sont eux-mêmes assez fantomatiques. Pour moi, ça a vraiment très bien fonctionné.
Si je ne dis pas de bêtises, la série était tournée en scope, c'est-à-dire en écran large.
Absolument.
Ce qui amplifie effectivement les images d'apocalypse qui sont assez saisissantes, que ce soit à Londres ou en France. On a vraiment tous ces corps comme ça qui jonchent la rue, les artères, c'est vraiment impressionnant.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma camarade, c'est-à-dire que cette guerre des mondes, finalement, elle s'interroge d'abord sur la nature profonde de l'humain, et la tension constante entre les personnages est finalement plus inquiétante que les attaques, les irruptions de violence des aliens, qui effectivement ne font pas terriblement peur. Et ce qui est intéressant chez Overman, c'est
ils sont pas gentils.
Non, mais ils tuent, mais c'est pas totalement ce qui nous intéresse, effectivement.
C'est pas Godzilla.
Voilà, c'est des petites bêtes comme ça, à quatre pattes, un peu mécaniques.
Oui, des canidés.
Voilà,
des
mais
chiens
qui sont
comme ça.
Pas indestructibles. Et donc, Overman, en misant le plus possible sur le réalisme, a raison, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la variété de destins, de trajectoires, tout le monde se retrouve à égalité face au danger. Oui. C'est-à-dire que les réfugiés, les militaires, les intellos, les scientifiques, les Français, les Anglais, les riches, les pauvres, vont devoir se serrer les coudes. Et dans ce monde nouveau et dangereux, finalement, l'ordre social est bouleversé et les failles des personnages se creusent. On s'attache aux subtilités des relations, que ce soit entre parents-enfants, entre couples et étrangers. On a d'ailleurs un réfugié qui nous renvoie à des enjeux contemporains, mais ça, c'est tout à fait accessoire. C'est vrai que...
C'est accessoire, mais en même temps, c'est dans la série. C'est dans la série. C'est bien l'écriture britannique d'intégrer aussi des choses contemporaines.
Voilà. Mais et sociales. Mais c'est finalement la famille qui va devenir la valeur refuge. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont très, très bien écrits, avec des moments d'émotion très forts, comme par exemple le type qui se retrouve dans la pouponnière. Il y a un hôpital, tout est écrabouillé, il y a la mort partout. Ouais. Et il y a ce pauvre type qui se retrouve dans l'hôpital tout seul avec des dizaines de bébés dont il faut s'occuper et qui essaye de rallier à sa cause tous les survivants qui se barrent dans tous les sens. Et c'est une scène très émouvante et en même temps drôle et incroyablement touchante. Et il y en a plein comme ça qui sont saupoudrés à travers la série.
Moi, je trouve que toute la force de la série, c'est d'être une grande série politique sans discours. C'est clair, dès le départ, il est question de ces humains, quel que soit leur pays, qui se disent, bon, bah, désormais, il va falloir bien qu'on travaille de toute façon ensemble parce que la menace, elle est ailleurs, elle n'est pas entre nous. Donc, à partir de là, c'est réglé. Ce personnage de migrant, il n'est pas du tout anecdotique parce que il symbolise tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toutes les peurs qui sont les nôtres aujourd'hui, sauf que c'est pas dit dans le discours, c'est juste montré et ça entre dans la narration comme ça. Et moi, ce que j'ai trouvé, et d'ailleurs, il y a tellement peu de discours, mais la série est tellement politique que tout se passe presque de dialogue. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi dans La Guerre des Mondes, c'est que on pourrait s'attendre avec ce genre de série à être hyper bavarde ou beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup de bavardage. Oui, là, peu d'effets spéciaux, peu de bavardage. Et une tension, effectivement, qui fait que, surtout nous, en tant que téléspectateurs, on est là, on regarde et on se dit, mais si demain, avec les enjeux climatiques, on se retrouve avec des cadavres dans la rue parce qu'il fera trop chaud, parce que l'océan aura monté, comment on va réagir? Comment on va s'unir? Et c'est ça toute la force de réussir à nous intégrer, nous, téléspectateurs, dans ces tragédies. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a complètement bousculé. Au départ, j'étais là en train de me dire, oh, il se passe pas grand chose dans cette série. Enfin, c'est le premier sentiment que j'avais. Et puis, plus j'avançais, plus j'étais pris par quelque chose qui était en moi, plus que sur l'écran. Et ça, je trouve que c'est assez rare dans les séries pour nous positionner, nous, en tant que téléspectateurs, comme presque acteurs de l'œuvre.
Oui, en fait, je voulais rajouter, mais je suis tout à fait d'accord avec Benoît. En fait, tout à l'heure, je parlais de Spielberg. Il y avait quand même une héroïsation du personnage principal. Bien sûr, c'était Tom Cruise. Là, c'est tout le contraire. Ce sont des gens ordinaires. Et je pense que c'est ça aussi qui fait, outre la façon de filmer qui est très réaliste, ça qui fait qu'on se projette et qu'on est dans l'empathie pour ces personnages, même si, voilà, ils sont très loin de nous pour autant. Mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la proximité et qui renchérit sur l'idée. Je pense que le thème principal, quand même, de cette série, c'est le lien, c'est la solidarité.
Bah, ouais. Moi, je ne sais pas pour vous, mais on est tellement habitué à voir du super spectaculaire quand on traite de la guerre des mondes avec des monstres comme ça, des tripodes, c'était écrit dans le roman de Wells, que j'ai l'impression que la série prend le contre-pied, mais pour justement nous raconter quelque chose à hauteur d'homme, justement, une espèce d'apocalypse de proximité, on pourrait dire. Et c'est, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, surtout en regard des menaces qui sont celles aujourd'hui du monde moderne. Christine ?
Oui, c'est vrai qu'en fait, ils posent les questions, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ils se posent quand même les questions, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils nous veulent, etc. Donc les questions
les
sont posées.
Les militaires, les scientifiques,
les
militaires, les
questions sont posées. Mais en fait, la série, elle s'appuie sur le fait que le monde est mort. Il n'y a plus de moyens de transport, plus de communication. Donc, les mystères de cette invasion vont rester comme ça, planer comme pendant un certain temps. Mais c'est les survivants qui vont nous intéresser, qui font face à leurs besoins fondamentaux, l'abri, la nourriture, les armes, et qui ensuite se regroupent pour chercher leurs proches et surtout repositionnent leur vie. Commence à se poser tout un tas de questions.
Et moi, ce que j'aime, c'est que pour construire tout ça, il y a les images, à en parler, mais il y a le son. Il y a un travail sur le son qui est fondamental. Il y a déjà ce son, parce que tout commence par ce son qui arrive. C'est cette onde qui arrive et qui est permanent dans toute la série et qui vient nous bercer. On finit par s'habituer à ce son. Du coup, quand il disparaît, on craint. Quand il revient, on se dit, oula, mais il y a une crainte. Enfin, c'est hyper brillant dans la façon aussi dont c'est pensé sur le plan sonore. Vraiment.
En plus, c'est vrai qu'ils sont tous les personnages au moment de la catastrophe sont en situation d'échec personnel. Oui. Et c'est-à-dire que ça va les forcer à réexaminer leur vie, leur relation avec leurs proches. Et c'est véritablement ce qui fait la force de la série.
Entièrement d'accord. Ariane, un mot pour
vous? Non, moi, juste sur le terminer sur ce roman, parce que je trouve ça incroyable que ce roman, qui a été écrit en 1898, qui à l'époque, on avait dit que c'était quand même une métaphore sur l'impérialisme et le colonialisme anglais. Ensuite, il y a Wells qui s'en empare juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui en fait encore autre chose. Et puis après, il y a Spielberg. Et à chaque fois, ce roman, c'est faut vous dire, enfin, moi je trouve qu'il y a c'est une grande richesse quand même. Et aujourd'hui, c'est un roman qui nous parle des peurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire du dérèglement climatique, du terrorisme, des choses comme ça. Cette peur de l'effondrement aussi, qui est quand même très, je trouve, typique des années 2010. Et moi, je trouve ça assez génial.
Oui, parce que quand Wells l'écrit, c'est l'époque victorienne, c'est l'époque quand même de l'ère industrielle, de l'empire, de la colonisation massive. Mmh. Donc on n'imagine pas un moment ou un autre que l'homme ne soit pas au sommet de la pyramide humaine et sociale.
Et une chose intéressante, c'est une coproduction, donc c'est tourné en Grande-Bretagne et en France. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les séries de ce genre, notamment américaines, on n'est que aux États-Unis. Et puis on voit que c'est dans le reste du monde grâce à un écran télé. Enfin bon, là, rien ne marche. Et je trouve que là, c'est aussi vachement intéressant de voir une série de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on passe, on est à Grenoble, puis Paris, puis dans le Nord, puis à Londres. Et voilà, on navigue comme ça dans une Europe. Et je trouve qu'à l'heure du Brexit, je trouve que c'est aussi politique, le message de la série.
La série est également coproduite par Netflix, qui diffusera bien évidemment rapidement la série. Mais pour l'instant, pour l'heure, c'est sur Canal+. Et les 8 épisodes de cette première saison, peut-être une deuxième, on ne sait jamais.
Ah, vu comment ça se termine.
Voilà, absolument. On peut espérer supputer. Sont déjà disponibles depuis le lundi 28 octobre sur la chaîne. Ariane, vous vouliez dire quelque chose ?
Non, très bien.
Merci. Alors, on va écouter un peu de musique.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie, then beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.
C'est Human de Ragni Boneman. Faut jamais dire mon anglais quand même pour les prochains. On riait pas à Benoît Logan parce que c'est pas mieux.
Moi, je suis,
voilà,
je suis
et ça datait de 2016.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du conseil littéraire, toujours en rapport avec la guerre des mondes qui a enthousiasmé mes chroniqueuses et mon chroniqueur. Et je les comprends, je vous recommande cette semaine la lecture de Foudre de Lune. C'est paru chez Actes Sud Exofiction, qui est la collection de science-fiction d'Actes Sud. Le nouveau livre donc du prodige de la littérature de SF, Liu Cixin. Il est à la fois chinois et ingénieur de formation. Chinois, je le précise, parce que sous Mao, la SF était interdite. Normalement, rien n'autorisait le fantastique, ça n'était que la force du stakhanovisme prolétaire qui devait justement aller jusqu'au bout des épreuves, absolument pas la SF, absolument pas les extraterrestres. Donc la littérature de SF chinois, c'est quand même un avènement du 21e siècle, et Liu Cixin s'est immédiatement rangé parmi les auteurs mais majeurs. Il est écrivain d'une trilogie Le problème à trois corps, qui a raflé un nombre considérable de prix dans le monde, et qu'il a donc affirmé comme une plume majeure de ce siècle naissant. Son nouveau roman Boule de foudre débute le jour où Chen, qui vient de fêter ses 14 ans, voit ses parents réduits en cendres par une boule de feu. Mais si les corps ont été irradiés, le reste de la maison est en revanche intacte. Chen jure alors de consacrer tout le reste de son existence à traquer et résoudre le mystère de ces boules incandescentes jusqu'au jour où il croise la route de la Major Li Niu, qui elle aussi est en quête de ce phénomène extraordinaire, mais en revanche pour des raisons purement militaires, car elle ambitionne de faire de ces boules la nouvelle arme de guerre de la Chine contemporaine. Une dystopie aux accents de Moby Dick, lucide et inquiète sur la folie meurtrière des hommes et des armées, portée par une plume qui fait du langage technologique et scientifique une langue hypnotique, vertigineuse et unique en son genre. C'est juste magistral. Foudre de Lune chez Actes Sud Exo-Fiction. Et c'est l'heure du troisième débat. Je vous parlais de ces soirées hyper alcoolisées où j'avais donc été récupérer mes chroniqueurs. En même temps, quand on n'a pas le moyen, il faut bien avoir des idées. C'est clic sur Sundance TV depuis le 28 octobre, tous les lundis à 20h45. Deux saisons à ce jour, c'est la première qui est diffusée. 6 épisodes par saison et c'est scénarisé par Jess Brighton qui a travaillé entre autres sur Skin. La chaîne a généreusement lâché 2 épisodes, ce qui est un peu short pour se faire une idée définitive. Deux amis d'enfance, Georgia et Holly, vivent leur premier jour à l'université d'Édimbourg lorsque Georgia est enrôlée dans la clique, un cercle très restreint de filles appartenant à l'élite et dirigée par une des enseignantes, Jude McDermid, d'une sororité aussi clinquante que toxique, qui va très rapidement séparer les deux jeunes femmes. Holly va tenter de récupérer sa meilleure amie, celle de l'enfance, cependant que les cadavres se multiplient dans l'entourage de la clique et de sa très charismatique fondatrice. Mais Holly, notre héroïne, dissimule peut-être elle aussi un lourd secret qui remonte à ses jeunes années.
This isn't like other internships, is it?
Nope.
Something happened last night. Just be careful. Something really big is happening. You're being paranoid, you know that, right? I really don't think I am.
Get out. Get out before you're me.
Alors je sais que parfois les auditeurs nous font le reproche de diffuser les bandes annonces en anglais. D'abord nous n'avions rien d'autre, donc ça a quand même résolu le problème par l'absurde. Et puis on est face à des comédiennes britanniques et qui a un accent, il y a une langue particulière qu'on avait un petit peu envie de vous faire entendre. Mais Christine, maintenant il est temps de vous prononcer pour ou contre Click.
Eh bien pour et contre quoi, mais plutôt pour au départ, parce que Click est véritablement un thriller psychologique, un portrait d'amitié féminine d'aujourd'hui qui sort de l'adolescence donc pour découvrir la dure réalité du monde adulte. Et c'est vrai qu'on a assez peu de séries sur l'expérience universitaire finalement. Et si on compare à une série française comme Les Grands, par exemple, on s'aperçoit que l'entrée à l'université pour les Britanniques correspond à un moment clé où ils quittent la maison familiale, où ils vont vivre loin de chez eux, en colocation, dans des dortoirs universitaires. C'est tout à fait différent du système français. C'est l'heure des choix, comme pour la France. Ils doivent poser les bases de l'adulte qu'ils vont devenir. Mais par rapport à la France, là encore, c'est vrai que le système de classe est très marqué en Grande-Bretagne. Édimbourg, comme Oxford ou Cambridge, est une ville plutôt élitiste. On le sent très bien dans la série, d'autant plus que la fameuse clique, elle est basée sur des relations de connivence, des affinités, mais aussi des intérêts de groupe commun, une appartenance à une même classe sociale, souvent. Et c'est un groupe, ici, pas vraiment comme les autres, puisque c'est un groupe plus glamour. Et bien entendu, on n'en voit pas la partie immergée, qui est évidemment beaucoup plus sombre. Alors, on va se retrouver dans l'univers de la finance, mais c'est un peu Gossip Girls travail pour la firme. Et c'est vrai que certains éléments auraient mérité d'être développés, comme le discours féministe de la prof. Par exemple, ces femmes qui se disent libres et indépendantes se placent en fait volontairement dans la position de victime et sont jamais finalement en contrôle de leur destin. Le monde de la finance fait office de méchant de l'histoire. C'est un univers de compromis sordide, de corruption, où les femmes, une fois de plus, sont des proies manipulées par des hommes d'affaires pour satisfaire leurs ambitions et leurs désirs. Alors tout ça est quand même un peu court. Et à travers les thématiques qui sont effleurées, c'est toujours de manière superficielle. C'est-à-dire le statut de la place, le statut et la place des femmes dans le monde des affaires est toujours dominé par les hommes, la pression sociale dans la course à la réussite, la tolérance dont bénéficient les hommes lorsqu'ils dépassent les limites de ce qui est acceptable. Tout ça un peu saupoudré de fausses pistes pour noyer le poisson, pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup d'énergie, une trajectoire assez prévisible, et finalement un fond qui manque dans cette affaire, et des actrices qui se superposent un tout petit peu, qui sont perçues comme un groupe, un peu trop à l'unisson, sans grande individualité. Ça vaut aussi pour l'actrice principale, Sinovy Carlson, qui manque vraiment de charisme. Et en revanche, ça ne vaut pas pour Rachel Hardwood, qui est la seule pour moi, à imposer un personnage un peu intrigant, un jeu un peu construit, intéressant par rapport aux autres filles.
Alors, votre allusion aux comédiennes et à leur manque de charisme n'a pas fait sourire ni Benoît, mais vous n'avez pas encore la parole, c'est une série féminine, donc vous allez vous réserver pour la fin du débat, mais Ariane n'était a priori pas d'accord.
Non, en fait, moi je trouve justement, et j'aime beaucoup moi la jeune comédienne, je trouve pas du tout qu'elle soit en retrait. Et,
elle est fadasse.
Non, justement.
Moi j'arrivais pas à la reconnaître.
Dans, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça, moi je trouve que ça parle, ce que tu as dit sur l'amitié féminine, je trouve ça très juste, sur cet âge très particulier de bascule, qui est souvent l'âge aussi où les amitiés se défont. Mais moi ce que j'aime, c'est ce que ça raconte aussi sur la jeunesse. Cette jeunesse d'aujourd'hui, qui est une jeunesse qui est à la fois totalement attirée par les paillettes, les choses comme ça, et qui en même temps, derrière ces paillettes, ça cache quand même, je pense, moi, une profonde angoisse existentielle. Et je trouve que cette série répercute ça de façon assez fine et assez subtile. Et cette jeune femme, qui est plus observatrice, même si elle enquête, mais elle n'est pas active comme l'est sa camarade, qui effectivement est beaucoup plus, voilà, extravertie, exubérante, et je trouve beaucoup plus stéréotypée, elle est dans une espèce d'entre-deux que je trouve beaucoup plus intéressant, parce que c'est un entre-deux un peu, encore une fois, spectral, un peu dans l'attente, etc. On nous montre quand même un monde qui est extrêmement cruel, qui est brutal, c'est quand même marche ou crève, et c'est effectivement le monde d'aujourd'hui, celui auquel est confronté les jeunes, les minots, j'allais dire, de 20 ans, c'est ça, quoi. Et cette jeune fille qui reste en retrait, qui en même temps essaye de ne pas rentrer dans cette spirale, et dans cette fausseté, et dans ces faux-semblants, moi je la trouve super intéressante.
Mais c'est... Christine, on va lui dire, la minorité visible attendra de toute façon.
Le point de vue est toujours assez cynique, je trouve, par rapport à la série.
Elle n'est pas cynique.
Je trouve
elle.
Un petit peu cynique en général. C'est vrai qu'on n'est pas dans un portrait réaliste de l'univers étudiantin. Il faut le dire, elles vont assez peu en cours, on ne les voit pas faire leurs devoirs. Elles passent leur temps en boîte de nuit, ça, à d'accord. faire la fête.
Elles sont immédiatement engagées avec un salaire.
Elles sont engagées dans des tractations secrètes, inquiétantes. Elles reçoivent des SMS, elles chuchotent derrière les portes. Enfin, tout ça, rien de tout ça n'est particulièrement crédible, mais c'est vrai que c'est amusant.
Alors, oui, pardon. Alors Benoît, quand même, parce qu'après...
Non, parce que pour répondre juste à cette critique, qu'on les voit pas à travers... C'est un concept de série. Ouais. Vous citiez Gossip Girl, Xavier citait Skins, on est dans l'entre-deux. Et donc, c'est peut-être ça qui est un poil gênant, c'est-à-dire qu'on sait pas du coup comment regarder. Et par exemple, la réalisation clipesque, notamment dans le premier épisode, toutes ces scènes dans les boîtes avec la musique, peut parfois nous perturber. On dit, zut, on est dans une série anglaise ou on est dans une série un petit peu comme l'aurait fait Gossip Girl. Et justement, c'est ça qui est malin. C'est qu'au final, au début, on se fait piéger, on sait pas trop où se situer et tout d'un coup, ces personnages qui, dans un Gossip Girl, auraient été complètement fadasses, qui auraient juste été dans une espèce de gros clip rocambolesque, là, tout d'un coup, s'humanisent, deviennent puissants et forts. Et moi, le personnage de Holly m'a vraiment beaucoup touché. Je trouve qu'au contraire, elle n'est pas du tout, comme vous le disiez, fadasse. Non, au contraire. Je suis d'accord avec Ariane.
Ariane ?
Oui, alors, moi, il y a une chose qui m'intéresse. Enfin, tous ces rebondissements, toutes ces choses, d'abord, c'est de l'ordre du thriller. C'est un thriller noir et studentin. Hein. C'est ça qu'on nous donne à voir de toute façon.
Oui, absolument. Quand,
dès le départ, hein, c'est un peu... Tout à l'heure, on parlait de Skins. Hein, bah, Skins, c'était les lycéens. Et maintenant, on est chez les étudiants. Mais c'est quand même les mêmes recettes. Et je voulais revenir au début, parce que Christine parlait d'une chose que moi, je partage, qui est intéressante. C'est le discours féministe au départ. Moi, je trouve brouillon. C'est ça qui m'a le plus gênée. C'est-à-dire que, par exemple, l'introduction, le prologue, où on les voit, elles sont hyper décomplexées et dans leur sexualité, et dans leur corps, etc. On se dit, tiens, c'est des filles puissantes, on nous les présente comme ça. Et en fait, l'image ensuite qu'on donne de cet univers, qui est un univers de l'entreprise, c'est, je trouve, assez cliché et assez superficiel. C'est-à-dire que ça aurait été le moyen, je trouve, de poser une question sur la place de la femme dans l'entreprise, par exemple, sans faire un truc politique.
Alors ça l'est peut-être au fur et à mesure
des
épisodes.
Nous, on a vu que deux épisodes, mais en tout cas, ce qu'on en a vu, c'est quand même pas tout à fait ça pour l'instant, et on est quand même plus dans les stéréotypes. Ça. Et moi, ça m'a gênée, parce que c'est quand même écrit par une femme, on voit bien que le point de vue est exclusivement féminin. Cette prof, cette maître de conf, qui a un discours quand même assez atypique, féministe mais atypique. Je trouve que ça aurait aimé. D'ailleurs, c'est une actrice que j'adore qui joue dans Sherlock, qu'on retrouve et qui est complètement différente. Moi, j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus cohérent et construit.
Oui, mais là où c'est intéressant, effectivement, et là où je dis que c'est particulièrement cynique, c'est que le discours féministe de cette femme, c'est un piège. C'est finalement le piège qui fait qu'elle attire les filles par ce discours féministe. En fait, elle en fait des esclaves.
Ouais.
Enfin, des filles minces, magnifiques, superbes, très qui portent du 34. Hein. Benoît.
Juste pour dire que, vu la surprise qu'on a eue quand même en peu d'épisodes sur une mise en place, puis un développement, moi, je pense que ça laisse présager du meilleur pour la suite, et d'autant plus qu'il y a une saison 2.
En tout cas, moi, j'ai envie de voir.
Entièrement d'accord, on a évoqué donc Click sur Sundance TV, diffusé en tout cas la première saison depuis le 28 octobre. Allez, un peu de musique.
Fini la 8-6, fini la fumette. C'est fini les bêtises, les clubs de striptease. Les femelles à lunettes. La migraine au réveil, j'ai la coupe d'un Bee Gees. Une haleine de fenêtre. Chez moi, ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges. Que j'ouvre plus les fenêtres. Je prends la vie comme un jeu. Mon ami, c'est comme un jeu. Sur ma vie, je prends la vie comme un jeu. Mon ami, je kiffe ma vie, donc j'écris sur ma vie. Je kiffe ma vie, donc j'écris sur ma vie. On m'appelle pas, on m'harcèle. Fais ça, fais si faut pas fléchir, ça rend fou ma mère. Faut que je me bouge, mais là j'ai trop la flemme. J'hésite entre la cic ou la play. Comme un jeu sur ma vie.
Number de chez Bouygues Télécom, c'est un secret pour les fouines et les connes. Je calcule pas les tweets et les coms. J'ai laissé ça comme la weed et l'école. Au réveil, je me demande quoi mettre. J'oublie que la vie a un goût amer. Cherche celle qui va mettre le sucre. J'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus. Je fais ça encore seulement. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches. Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme un parachute qui s'accroche mal. La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars. Chaussures turquoise, je porte mes costumes qu'une fois. Devine, je le jure sur quoi.
Sur ma vie, comme un jeu. Mon ami, c'est comme un jeu. Sur ma vie, comme un jeu. Mon ami.
Pour les murs, je vise le best. Ils diront tous que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Pour les miens, je vise le best. Ils diront tous que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire.
Némir sur ma vie, rappeur originaire de Perpignan, c'est le quatrième extrait de son album intitulé de manière très modeste Némir. Comme ça, au moins, on est sûr de le trouver. Hein. Fini la fumette, c'est fini les bêtises, les clubs de striptease, les femelles à lunettes. Ça, je vous laisse, hein, évidemment. Discuter la migraine au réveil. J'ai la coupe d'un Bee Gees. L'adieu à l'adolescence. Merci à Muriel Pérez de nous avoir trouvé cette petite merveille. Très en rapport avec Click. Et c'est la playlist de France Inter, bien évidemment.
France Inter. Série.
Et c'est l'heure du plateau télé. Ariane Allard, cette semaine, vous nous recommandez de découvrir, de redécouvrir, bien évidemment, pour ceux qui auraient été absents, Big Little Lies, la saison 2.
Oui, alors c'est une tentative de réhabilitation. La saison 1 a raconté les aventures, ou plutôt les mésaventures, de trois héroïnes principalement, Madeleine, Céleste et Jane, qui sont trois copines nichées dans la très riche communauté de Monterey. Monterey, c'est en Californie. Et même si elles étaient très riches, elles avaient quand même bien du souci, les pauvrettes. En l'occurrence, c'est un soap qui est matiné de thriller et qui surtout, à travers ce récit et cette solidarité féminine, raconte derrière les apparences faussement avantageuses de ce clan des trois ou ce club des trois, les violences conjugales, notamment, en tout cas domestiques, qu'elles subissent. Les copines de la saison 1, elles sont hantées dans la saison 2. à la fois par la mort de Perry, donc c'est le nom du mari violent, mais aussi elles sont hantées par cette soirée et surtout par le mensonge qui va les lier, puisqu'elles ont donné une version, on va dire, à peu près arrangée et arrangeante des faits. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Ce que je veux dire, surtout, c'est que ces personnages qui flottent, qui sont confus, qui sont... etc. Moi, je trouve que ça raconte exactement l'état d'esprit. On plonge dans la psyché de ces femmes, comme rarement on l'a fait. Et la deuxième chose très importante à dire, c'est que cette série a été dynamisée, unifiée, redressée par un personnage que je trouve absolument génial, qui est la mère du Dee Perry, qui est incarnée par Meryl Streep, qui est une femme apparemment doucereuse, gentille, catholique, bien élevée, qui est en fait une sociopathe total. Et Meryl Streep en fait quelque chose à la fois terrifiant et jubilatoire. Et voilà, je trouve cette...
Que Meryl Streep joue bien, ça fait un
scoop. Non, non, parce qu'elle joue un personnage méchant, ça c'est très rare.
Vous nous rappelez la
et
chaîne?
Et la chaîne c'est OCS. Et,
et c'est tout.
Je pense
c'est
qu'il faut donner une seconde chance à cette saison.
Et c'est tout, et on va donner la parole à Benoît Lagan qui va nous recommander l'intégrale de New York 911 sur Warner TV.
Ben oui, parce que c'est une série qu'on n'a peut-être pas regardée comme il fallait à une époque où on observait peut-être un peu moins les séries. Pourtant, c'était déjà une très grande époque. Il n'y a jamais eu une mauvaise époque avec les séries. Mais là, typiquement, New York 900.
Aussi.
Non, non, il n'y a jamais eu de mauvaise époque.
L'amour du risque, vraiment.
Mais parce qu'il n'y avait pas que ça. Vous, vous regardiez que ça. Mais donc, New York 911, c'est, on parlait tout à l'heure, en début d'émission, des fameux spin-offs. Voilà. Donc, c'est en gros une sorte de spin-off d'urgence. Urgence, c'était à Chicago. Là, on suit des ambulanciers, on suit des pompiers, on suit la police à New York. Et le fameux 911, le numéro de téléphone que l'on doit tapoter d'urgence. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle traite les urgences dans la ville de la même manière qu'Urgence le faisait à l'hôpital. On est vraiment au plus près de ces héros, entre guillemets, du quotidien, sans en faire des héros, justement. Et toute la série prend son sel au moment où il y a justement le 11 septembre qui arrive et qui va faire basculer complètement la série, qui redynamise à nouveau cette série. Et je trouve que c'est donc une série vraiment intéressante pour découvrir l'Amérique, le New York des années juste avant 2001, donc fin années 90, début des années 2000. Et Warner TV nous offre l'intégralité donc des 6 saisons à partir du 6 novembre. Donc il faut vraiment s'y replonger pour voir qu'il n'y avait pas qu'Urgence à cette époque qui traitait ces thématiques. Voilà, c'est vraiment très chouette à regarder.
Merci beaucoup Benoît. Christine, vous allez défendre la 4e saison d'Outlander.
Mais toutes les saisons, mon Xavier.
Parce Outlander,
les 4 saisons sont diffusées
sur
Netflix.
Si vous le faites en 35 secondes, moi je suis preneur.
Sur Netflix, qui était créé, produit, écrit par l'Américain Ronald D. Moore. Et en fait, les fans de Braveheart ou de Rob Roy vont adorer hein, cette série qui est une magnifique épopée adaptée des romans historiques Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. C'est une histoire qui commence après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'héroïne, Claire, rejoint son mari pour une lune de miel à Inverness. Et alors qu'elle visite les menhirs de la colline de Craignadoun, sans savoir comment, elle traverse les pierres, se retrouve téléportée en 1743, en pleine rébellion jacobite, où les clans s'opposent, catholiques contre protestants, Lowlanders contre les Highlanders, et la voilà qui tombe amoureuse de Jamie, un séduisant rebelle dont elle va partager les aventures dans les Highlands, à la cour de Louis XV, chez les pirates de la Jamaïque et les Indiens d'Amérique, ça en 4 saisons. Toute une vie entrecoupée de retour au XXe siècle auprès de son mari, donc elle est partagée entre deux époques et deux hommes. La série est racontée du point de vue de Claire, qui fait figure de féministe, de sorcière, de séductrice face à un Jamie plus jeune et innocent. C'est une série à la fois sensuelle, violente, un formidable mélange de guerre, d'histoire, de passion amoureuse, de voyage dans le temps avec de magnifiques paysages. Il faut la découvrir.
Outlander, les 4 saisons, c'est sur quelle chaîne?
C'est sur Netflix.
Merci à toutes et merci à tous de nous avoir accompagnés pendant cette heure en série. Nous vous avons recommandé ou pas La Guerre des Mondes sur Canal+, quasi unanimité autour de ce plateau. Clique sur Sundance TV. On n'avait pas vu assez d'épisodes pour complètement se prononcer, mais en tout cas, c'était prometteur. Et puis, Blacklist Redemption sur TF1, 00h25. C'est vraiment pas la peine de prendre un café ou un expresso pour se tenir éveillé. On peut s'en passer sans aucun problème. Une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer du courrier, nous serons ravis de vous y répondre. La semaine prochaine, nous évoquerons Mrs. Fletcher sur OCS, Daybreak sur Netflix et Is Dark Material, qui est une grande série très attendue de cette rentrée également sur OCS. Cette émission a été réalisée par Étienne Bertin, la programmation musicale assurée comme toujours par Muriel Pérez, préparée avec Amel Caldi et à la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand.